I like it.
Chatting with my friends online when there's nothing to do or it's raining outside.
Cause I like it.
Expressing myself, but I never let a bully get into my head.
Cause I like it.
Chatting with my friends online when there's nothing to do or it's raining outside.
Cause I like it.
Expressing myself, but I never let a bully get into my head.
Everybody here, put your thumbs up high if you think these bullies should be taking off like when we're online or using an app. We shouldn't never have to deal with that. I wanna stop like my screen is crap, but really they just want me to react. But I won't give in, I'll step on it, put their message in the bin, won't let them win.
Cyberbullies live off intimidation, calling people names.
Les mangeurs et mangeuses de péché. Un podcast proposé par Point de Mire, maison de l'informatique plus responsable. Nous remercions chaleureusement Salomé pour nous avoir prêté sa voix pour cet épisode. Également un grand merci à Sarah T. Roberts pour son autorisation à utiliser des extraits de ses entretiens issus de son ouvrage Behind the Screen, traduit en français par Derrière les écrans. Les modérateurs et modératrices de contenu sont des travailleurs de l'ombre chargés de purger les sites internet, les réseaux sociaux et les applications mobiles, des photos, vidéos et commentaires abjects qui les inondent. Voici quelques témoignages.
C'était ça mon travail. Dès qu'il y a une vidéo que l'utilisateur n'aime pas ou qu'il trouve rebutante, il y a un petit bouton en forme de drapeau en bas de la vidéo pour lequel existent plusieurs types de filtrage automatique. Pour les violations des droits d'auteur et les filtres sensibles à la pornographie, par exemple. Et si elle n'est pas acceptée ou supprimée par ces outils automatiques, elle nous parvient. Ensuite, ça marchait comme ça. On recevait les vidéos par paquet de 10, et chaque vidéo, Dieu merci, générait automatiquement une trentaine de vignettes, de sorte qu'on n'avait pas regardé la vidéo en entier, mais seulement des images fixes. On traitait donc le paquet de 10, on les envoyait, puis on passait au lot suivant. Je traitais entre 1500 et 2000 vidéos par jour. Nos outils sont un peu plus simples. Nous avons ce qu'on appelle une file d'attente et, chaque fois qu'un élément est signalé, il est placé dans cette file. En fonction du type de signalement, il est classé dans différentes catégories. Si un utilisateur signale un contenu pornographique, il est envoyé à notre équipe en Inde, qui s'occupe principalement de pornographie. Mais tout le reste, comme les discours de haine ou la violence, il peut y avoir une vidéo de violence, suivie de 3 vidéos de discours haineux, puis une vidéo de harcèlement, et enfin 2 autres vidéos de violence. Ensuite, on a une série de raccourcis qui correspondent à nos règlements. On reçoit une vidéo qui est décomposée en images fixes sous forme de petites vignettes. On a 40 petites vignettes, comme ça on n'a pas besoin de regarder la vidéo. On voit tout instantanément. Tiens, des parties génitales. Il y a une tête d'un homme, mais elle n'est pas reliée à son corps. Des trucs comme ça, on peut tout de suite appliquer la règle. C'est extrêmement simplifié. Je viens en covoiturage le matin et j'arrive au travail vers 8h30 pour prendre le petit déjeuner. Ensuite, on est censé faire une seule et même tâche pendant toute la journée, c'est-à-dire regarder la file d'attente avec toutes les vidéos et s'assurer qu'elle est réduite à moins d'une heure, de temps de réponse après signalement. Les vidéos doivent être étiquetées, donc on est devant son petit tableau de bord et on regarde des tonnes de vidéos. Elles ne sont pas filtrées en catégories, juste par langue. En gros, c'est tout. On voit beaucoup de choses violentes, du porno et des trucs sexuels, du harcèlement et de la haine. Tout ce qui a été signalé arrive au même endroit. Et les spams aussi. On regarde ça toute la journée. Et puis on fait des pauses, soit pour aller déjeuner, soit quand on n'en peut plus, et après on s'y remet. Il y avait un gros problème, et je suis presque certain que c'est toujours le cas, avec les vidéos de défis. Il s'agissait surtout de jeunes adolescentes, et aussi de quelques garçons qui ouvraient des comptes à l'insu de leurs parents et qui disaient « On s'ennuie, lancez-nous des défis !» Et il y avait des cinglés qui les dénichaient et qui leur disaient des choses sexuelles, mais les gamines ne comprennent pas que c'est sexuel. Il y a eu ce type qui les trouvait et les signalait pour nous, et nous on les supprimait. C'était dingue. Je veux dire, j'essaie de ne pas penser qu'il était peut-être dans le coup, et que c'était une manière de couvrir ses arrières si jamais quelqu'un venait lui demander pourquoi il regardait toutes ces vidéos. Mais le fait est, que nous avons supprimé des milliers et des milliers de ces vidéos à partir des signalements donnés par ce type.
«
Il y a des choses qui, indépendamment de ce qu'on est capable d'encaisser en une journée, peuvent complètement vous prendre au dépourvu, notamment avec la guerre en Syrie en ce moment. On ne sait jamais ce qui va arriver. Un jour, il y a eu une bombe dans une école qui a tué une vingtaine d'enfants. Et la vidéo était atroce. On voyait des enfants en morceaux partout, c'était très choquant. Et c'est justement à cause de ça qu'on a essayé d'aider en conservant ces images pour montrer leur détresse. On a tout gardé. Et c'est aussi pour ça que ces vidéos sont devenues virales, parce qu'elles sont très violentes. Et qu'elles sont très pertinentes et d'actualité. Ces images nous arrivaient en permanence. Ça vous secoue quand même un peu. Ok, je sais ce que c'est bon. Mais il y a toujours des choses vraiment dingues qui arrivent et qu'on n'a jamais vues. Notre équipe était très réactive dès qu'il s'agissait de personnes menaçant de se suicider. En fait, le processus pour rendre prioritaire un message suicidaire dans la chaîne de transmission aux autorités était vraiment fastidieux. J'ai donc introduit un système beaucoup plus rapide. Évidemment, beaucoup d'autres modérateurs faisaient aussi en sorte que ces messages deviennent prioritaires. Tout ça a aidé. Toute forme de prévention est utile. Je pense qu'on a empêché 9 suicides, selon les autorités. Sur environ 800 vidéos suicidaires, mais quand même, 9 personnes, ce n'est pas rien. Tout le monde dans l'équipe parlait beaucoup, et le fait de parler nous aidait. Pas nécessairement à traiter le contenu, on ne parlait pas trop des choses problématiques, mais à nous distraire. Sans la possibilité de parler à d'autres personnes pendant la journée pour se distraire de tout ça, on n'y serait pas arrivé. C'est terrible. Mais je m'entendais très bien avec tous les membres de mon équipe, et je suis restée proche d'un bon nombre d'entre eux. C'était un vrai soutien, même si on parlait peu des vidéos elles-mêmes. Moi, ce qui me gêne le plus dans une vidéo violente, c'est le bruit. Si je dois entendre quelqu'un crier ou pleurer dans une scène de violence, ça me gêne plus que la vue du sang. Le fait que je n'ai pas besoin de l'écouter et que je puisse me contenter de regarder les images, sous la forme de vignettes, ça facilite les choses. Le modérateur doit avoir une santé de fer. Je ne sais pas. Je ne dirais pas que mon boulot est difficile. La question est la quantité qu'on peut encaisser et le volume qu'on peut gérer, la quantité de violence. Et même, la violence, ce n'est pas compliqué. La violence et le porno ne m'atteignent pas. C'est plutôt des choses que les gens font, comme les discours haineux et conspirationnistes. J'en parlais surtout sur le ton de la plaisanterie. Je leur parlais des choses drôles que j'avais vues, parfois aussi de choses sérieuses, mais seulement quand elles étaient pertinentes et en lien avec l'actualité. J'évitais de parler des choses que personne n'a envie de voir. Personne n'avait à en entendre parler. J'évitais d'en discuter avec qui que ce soit. Il le fallait parce que c'est vraiment quelque chose. Je n'avais pas non plus envie d'accabler davantage mes collègues, qui étaient aussi confrontés à ça. Mais j'aurais dû pouvoir en parler avec quelqu'un. Ma petite amie, avec qui je vivais, et avec qui je vis toujours, me disait « Oh, il faudrait que tu en parles avec quelqu'un. » Et je savais que j'aurais dû le faire. En même temps, je ne voulais pas accabler qui que ce soit avec ça. Les gens manifestent un réel intérêt lorsque vous leur dites que vous travaillez dans ce secteur. Ils me demandaient ce que je faisais là-bas. Oh, je modère tous les contenus haineux, le porno. Et comme les gens trouvent ça drôle ou intéressant, vous leur faites un petit résumé plaisant. Oui, je regarde du porno toute la journée. Oh, oui, je vois des trucs gore toute la journée. Et ils me répondent quelque chose du genre. Ah, c'est tout ? Mais je ne m'entre pas vraiment dans les détails. Ils ne s'intéressent qu'au contenu, à ce qu'on regarde. Donc je me limite surtout à ça. Où je leur parle juste des avantages du boulot. On n'a pas vraiment envie d'en parler, en fait. Quand on vient de passer 8 heures dans les égouts, on n'a pas vraiment envie de se coltiner ça ailleurs. Même avec mes collègues, on ne parle pas du travail. On garde ça pour soi. Ce n'est pas que ce soit traumatisant. C'est juste que, je ne sais pas, on n'a pas envie de faire porter ce fardeau aux autres. On reçoit la visite d'un psychologue 2 fois par mois. Il s'adresse à nous en groupe, mais on a aussi la possibilité de parler en tête-à-tête. Mais, la plupart du temps, les gens ont d'autres techniques d'échappatoire. Il n'y a pas de protocole écrit dans le contrat, donc on peut très bien quitter son bureau quand on veut et revenir quand on veut. Les gens peuvent se lever et s'absenter un moment. Pour une pause cigarette, par exemple, je dirais que, pour ce qui est du contenu, personne ne compte sur les autres pour surmonter les problèmes. Il arrive qu'on fasse une remarque en passant, du genre « J'ai vu une vidéo dégueulasse là-dessus, mais c'est juste une manière d'évacuer ». Les films d'horreur n'ont plus aucun effet sur moi. J'ai vu tout ça dans la vie réelle. Cela cause des dégâts irréparables. Je n'oublierai jamais nombre de ces choses. Pour le moment, je n'y repense pas. Ce n'est pas quelque chose qui, après 2 ans, mon Dieu, ça ne fait qu'un an, en fait. Je n'y reviens pas quotidiennement. Je n'y reviens pas non plus toutes les semaines, mais même tous les mois, je dirais, mais de temps en temps. Je ne pourrais même pas me rappeler certaines vidéos horribles que j'ai vues, mais de temps en temps, on s'en souvient. Une fois, ma copine et moi, on était tous les deux à faire les andouilles sur le canapé, et elle a fait une blague à propos d'un cheval. J'avais vu une vidéo porno avec un cheval, un peu plus tôt dans la journée, et ça m'a assombrée d'un coup. Ok, bonne nuit, je suis crevée. C'est juste des trucs bizarres qui vous tombent dessus tout d'un coup. C'est plus rare maintenant. Mais je me demande, peut-être que d'ici 10 ans, peut-être que j'arrêterai d'avoir ces espèces de remontées, qui sait? Vous savez, l'externalisation, en général, c'est du grand n'importe quoi. Parce que partout où on va embaucher, ou fournir des employés au prix que ces entreprises veulent payer. Ça se passera forcément dans des pays comme l'Inde ou les Philippines. La culture là-bas est tellement différente. Et essayer d'appliquer des règles qui sont basées sur la culture américaine ou européenne, ça ne peut pas marcher. Avant que j'arrive, ils ont essayé de sous-traiter en Inde. Et ça a été un tel fiasco qu'ils ont tout annulé et dit qu'il fallait tout faire en interne. Les sous-traitants indiens supprimaient des photos de femmes en bikini avec leur famille à la plage, parce qu'ils se disaient que ce n'était pas approprié à une diffusion publique. L'externalisation leur permet de sous-payer les gens. Moi, je ne ferai jamais ce boulot pour moins que le salaire qu'on me donnait. On m'a payé correctement, mais ça reste un salaire de misère. Je ne l'aurais jamais fait pour rien. C'était un des seuls avantages. On n'en avait pas d'autres. C'était vraiment épuisant et brutal. Quatre mois après le début de mon contrat, toutes les vidéos dites « faciles à traiter », c'est-à-dire les spams et la pornographie, ont été externalisées. Ce sont des vidéos qu'il faut une demi-seconde pour identifier et qu'on n'a pas besoin de regarder. Car des trucs comme les discours haineux avec quelqu'un assis devant sa webcam qui parle pendant une quinzaine de minutes et qui prononce des phrases comme « Ce sont les juifs qui contrôlent ça » et ça. On ne sait pas ce que ce type va dire. Si ça va être des discours haineux ou conspirationnistes, alors on est obligé de les regarder. Tandis que si c'est de la pornographie ou du spam, on s'en rend compte tout de suite. On a donc pris toutes ces vidéos. Je dirais que 60 à 70% de nos contenus sont du spam et du porno. Et on les a envoyés à notre équipe en Inde. Donc, quand on s'est mis à faire ça, le volume qu'on devait traiter a été divisé par 2. Et ça a complètement foutu en l'air nos indicateurs. Parce que c'était là-dessus qu'on était évalués. Sur le nombre de vidéos traitées. Tout d'un coup, il a fallu trouver d'autres indicateurs pour évaluer les compétences d'un modérateur. Parce que maintenant qu'on n'a plus les contenus faciles à traiter, on a beaucoup moins de volume. Nous publions du contenu pour le compte de la marque. Nous nous engageons auprès des consommateurs, etc. Tous les sites ont besoin de modération. Mais elle s'est étendue à beaucoup d'autres choses. À l'analyse et au rapport, à ce qui se passe transversalement, à ce que les gens disent de la marque sur l'ensemble des réseaux sociaux, à l'analyse des sentiments. Si les commentaires sont positifs ou négatifs. On fait aussi appel à nous en cas de problème. Ce sont parfois des clients avec qui on n'a jamais travaillé. Et soudain, quelqu'un commet une erreur stupide. Et leur page Facebook s'enflamme. Alors ils nous appellent pour gérer la crise. Voici un très bon exemple. La chose la plus bizarre que j'ai jamais vue, c'était il y a environ 1 an. Et une entreprise de restauration rapide avait publié une image pro-LGBT. En quelques heures, ils se sont retrouvés avec plus de 20 000 commentaires sur leur page Facebook, avec beaucoup de remarques homophobes. Pourquoi les gens font ça sur la page Facebook d'une entreprise de restauration rapide? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, ils nous ont appelés pour qu'on les aide à gérer ça. Toute la difficulté est de réussir à mettre de côté sa philosophie personnelle, ses convictions et ses croyances, et de modérer selon les souhaits du client. Certains sites d'information sont pro-armes, d'autres peuvent être au contraire pour leur contrôle. Il est donc indispensable de mettre ses convictions personnelles de côté et de modérer. Non pas en se disant « Je pense que ce commentaire est approprié ou non ?» mais « Je dois le laisser parce que le client dit qu'il est approprié. » Certains n'y arrivent pas. Ils ne parviennent pas à suspendre leur opinion et leur philosophie personnelle, et donc à faire un bon travail de modération. Parce que c'est totalement contraire à leurs convictions. On ne peut donc pas recruter et dire « Vous pouvez faire ça. » La question est plutôt de savoir s'ils vont en souffrir. On a eu des gens qui ont dit que ça les empêchait de dormir, pas à cause de leur système de croyances, mais parce que les commentaires étaient vraiment horribles. Qu'il s'agisse des armes, de l'homophobie, de la question des Indiens contre les Blancs au Canada, ce sont des questions importantes. Et les commentaires peuvent être très racistes ou homophobes. C'est pour ça qu'il est essentiel de réussir à mettre tout ça de côté à la fin de sa journée de travail, si on veut être un bon modérateur. D'un côté, on peut former des gens pour faire ça, mais d'un autre côté, on ne peut pas tout non plus. Il arrive que quelqu'un démissionne simplement parce que ses contenus lui sont insupportables. Très souvent, je ne pouvais simplement pas me contenter de supprimer les commentaires. Alors je disais, je suis le modérateur de contenu et je ne vous censure pas. Vous utilisez Porch Monkey et Wetback, ce qui est inacceptable sur ce forum. J'imagine que j'écris comme une fille, car ensuite il se lâchait avec des « sales putes, espèce de salope, je vais te violer ». On arrive vite à une impasse. Ce qui est frustrant, c'est que ça suppose de priver quelqu'un de son droit au premier amendement. Je suppose. Même si je ne suis pas d'accord avec ça, je trouve ça stupide. Mais je suppose que la direction ne voulait pas entrer dans ces conflits et se disait « on ne veut pas que les gens croient qu'on les censure ». Là-dessus, il ne faut pas me braquer. J'enrage quand j'y pense. Il était très important de peser le pour et le contre entre la liberté de se montrer haineux et la liberté, disons, pour des internautes de couleur ou des homosexuels, de ne pas être traumatisés lorsqu'ils vont sur le site. Comment le droit de dire une chose merdique peut-il être plus important que celui de quelqu'un qui se fait traiter de pété toute la journée dans la rue et qui se fait encore traiter de pédé sur un forum? En quoi le droit de traiter quelqu'un de pédé a-t-il plus de valeur que le droit qu'a cette personne de ne pas se faire tout le temps traiter de pédé, pédé, pédé? Franchement, vous comprenez? On trouve plein de commentaires désobligeants, même s'ils ne sont pas à proprement parler obscènes, des commentaires de textes sacrés. Il y en a tellement, comme si la religion devenait une arme. C'est la première chose que je cherche. Moi-même, je ne suis pas une grande lectrice de la Bible, mais on trouve sans arrêt « va en enfer ». Ce n'est jamais, ne jugez pas, c'est toujours « va en enfer ». Tu es une abomination, tu pues. Cela, je ne le tolérerai pas. Je ne sais pas. Quelqu'un d'autre pourrait trouver ça normal. Moi, je pense juste que c'est inacceptable. Je pense que ce n'est même pas une façon passive-agressive de blesser les gens. C'est très agressif. Je suis lesbienne. Je suis une femme. Je suis athée. Je suis plutôt issue de la classe ouvrière. Je suis mariée à une autre femme. Je représente tout ce que ces gens détestent. Je pleurais beaucoup. Et je me sentais tout le temps sale lorsque je faisais ce travail. Et j'étais anxieuse aussi. Vous savez, j'étais censée travailler 40 heures par semaine. Mais en fait, je travaillais beaucoup plus que ça. Simplement parce que je ne pouvais pas. Je m'absentais des cours pour aller vérifier des trucs. Parce qu'à partir du moment où j'étais dans une discussion avec quelqu'un en particulier, je ne supportais pas l'idée qu'il puisse se passer quelque chose et que ça en reste là. Sachant à quel point ça m'affectait. Je ne voulais pas que d'autres soient atteints. Dans ma vie personnelle, je fais tout pour éviter les contacts avec des gens détestables et merdiques. En particulier pour tout ce qui touche à mon identité, celle de mes amis et des personnes qui me sont chères. C'était très difficile pour moi d'avoir directement affaire à eux. J'étais choquée au bout d'un moment. Et on s'investit beaucoup. Je prenais très à cœur ce rôle de protectrice parce que c'était aussi une façon de me protéger, de ne pas prendre les choses personnellement. J'ai beaucoup utilisé l'humour. Je me moquais des commentaires les pires parce qu'ils étaient horribles. Je n'ai jamais vu de photos porno avec des enfants. J'ai signalé deux incidents où quelqu'un avait tenu des propos sur le viol d'enfants. C'était très perturbant. Je me voyais comme la mangeuse de péché, comme si ma fonction était d'absorber toute l'énergie négative. Et, vous savez, ce que je faisais ne servait pas à grand-chose. Parce que dans tous les cas, ils auraient été le dire ailleurs. Même sur la chaîne Météo With Her, vraiment. Il y a des pages entières où des gens citent la Bible pour dire que les gays vont mourir et aller en enfer. Sur une chaîne météo, vous postez une image de petit chat et ça devient « gros pédé de sale nègre, Obama est un coco musulman ». Je préfère me dire que c'est juste une bande d'ados qui jouent aux sociopathes dans leur cave. Quand je rencontre des nouvelles personnes, j'ai tendance à être moins positive qu'avant avec les gens. Et j'ai du mal à imaginer qu'ils ne soient pas haineux. Vous voyez, j'ai l'impression, lorsque je me promène ou que je rencontre des amis d'amis, qu'ils pensent des choses horribles à mon sujet. S'ils connaissaient les différentes facettes de mon identité, ils feraient peut-être un grand sourire et me serreraient la main, en ne me souhaitant rien d'autre que de brûler en enfer.
Cause I like it. like it.
Chatting with my friends online when there's nothing to do or it's raining outside.
Cause I like it.
Expressing myself, but I never let a bully get into my head.
Cause I like it.
Chatting with my friends online when there's nothing to do or it's raining outside.
Cause I like it.
Expressing myself, but I never let a bully get into my head.
Everybody here, put your thumbs up high if you think these bullies should be taking off like when we're online or using an app. We shouldn't never have to deal with that. I wanna stop like my screen is crap, but really they just want me to react. But I won't give in, I'll step on it, put their message in the bin, won't let them win.
Cyberbullies live off intimidation, calling people names, humiliation. So if you see something nasty, I don't know what to do. Don't let it put you in a mood.
If it makes you feel bad, then don't reply. Tell someone that you trust, report it online.
Just block the sender, block the sender.
There's so many ways you can stop the pressure.
Cause I like it.
Chatting with my friends online when there's nothing to do or it's raining outside.
Cause I like it.
Expressing myself, but I never let a bully get into my head.
Cause I like it.
Chatting with my friends online when there's nothing to do or it's raining outside.
Cause I like it.
Expressing myself, but I never let a bully get into my head.
I like it. Watching YouTube, I like it. Listening to new tunes, I like it. When my best friend texts me, I like it. Putting up a status or a selfie, I like it.
Playing some games,
I like it.
Challenging my brain,
but these trolls will never affect me.
When I'm online, you better respect me.
If this turning into a problem,
one way to stop them is block them.
Keyboard warriors and trolls,
I will never let them get controlled.
If this turning into a problem,
one way to stop them is block them.
Keyboard warriors and trolls,
I will never let them break my soul.
Cause I like it.
Chatting